40 ans. 40 ans de... 40 ans de... 40 ans de... Depuis 40 ans, le Petit Marseillais ensoleille votre quotidien avec ses gels douches qui sentent bon la Provence. 92% d'ingrédients d'origine naturelle et des flacons entièrement recyclables. Le Petit Marseillais, 40 ans de soleil sous la douche. Et en ce moment, profitez de nos offres anniversaires en magasin. Offre disponible dans les magasins participants.
En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Pinot Noir, un cépage rouge qui n'a pas froid aux yeux.
Ici en Pays d'Oc, je me refuse à rien. Un apéro, un dîner, un barbecue, je suis toujours partant. Un conseil ? Un petit passage au frais me donne un vrai coup de fouet. Et sans casser mes arômes de fruits rouges.
Pays d'Oc, 58 cépages et une indication géographique protégée à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Alors Chloé, ce nouveau travail ?
Génial Cerise, mais j'ai beaucoup plus de trajets maintenant et mon fils est obligé de rentrer seul de l'école. Ça m'inquiète.
Grâce au système de télésurveillance Groupama, vous recevez une notification sur votre smartphone qui vous prévient dès son retour à la maison.
Ça c'est rassurant Cerise.
Oui, et en ce moment, Groupama vous offre les frais d'installation. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr.
Peugeot. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique en ville et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants. Nous sommes toujours en direct du Mans. Il est 11h. L'actualité des informations présentée par Stéphane Duguay. Bonjour Stéphane.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. Pour ceux qui prolongeraient de quelques heures le week-end et qui comptent se baigner, attention au choc thermique entre la température de l'eau et de l'air. À Lacano, dans le sud-ouest, Charlie Dupont, chef du poste de secours, a vu plusieurs hydrocutions.
On en a eu quelques-uns depuis que mercredi il fait beau. C'est vrai que les gens n'ont pas encore l'habitude de ces températures-là. Donc on a eu quelques malaises de ce type-là ces derniers jours. Je crois que c'est de l'ordre de 1 par jour pour l'instant.
Et pour ceux qui sont déjà sur les routes, Bison Futé prévoit du rouge et du noir dans le sens des retours. Soyez prudents. L'Eurovision gagnée par la Suisse. Slimane pour la France termine quatrième de cette finale. Finale marquée par les huées de la chanteuse israélienne sur fond de guerre à Gaza. Un corps démembré dans une valise retrouvé hier soir à Paris sous le pont d'Austerlitz. Il a été découvert par les pompiers d'abord appelés pour un incendie. Une enquête de la brigade criminelle est en cours pour tenter d'identifier le cadavre. 4000 Ukrainiens ont fui. Puis la région de Kharkiv, région attaquée au sol depuis vendredi par les troupes russes. Et puis les salariés syndiqués d'un magasin Apple aux États-Unis menacent la marque de faire grève. Ce serait une première pour le géant à la pomme. Ils demandent de meilleurs salaires. La course du Quintet et les pronostics de Mathieu Zaccanini de la Dream Team des courses RMC. Ça se passe sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à 15h15. Son favori le 6, My Fancy, son outsider le 14, Noce d'argent. Course à suivre sur RMC et RMC Découverte.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC 11h et bientôt 4 minutes. Vous retrouvez dans un instant Jean-Christophe Drouet et les GG du sport en direct du Mans.
RMC. Vibrez Moto, rejoignez la Fédération Française de Motocyclisme. Partagez des moments exceptionnels, vivez des sensations incomparables et offrez-vous un vent de liberté sur nos circuits.
RMC, les grandes gueules.
Demain 9h, on redémarre la semaine avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Trois GG seront là pour discuter, pour débattre avec vous au 32-16. L'avocat Charles Consigny, la coach de vie Joël Dagosséry et Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h-12h. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
T'es chez Lidl ?
Ah oui, et pour nous c'est cuit. Dès demain, les 4 brochettes de dinde sont à 3,19€ les 400 grammes au lieu de 4,49€.
3,19€ les brochettes de dinde, moins 28%.
Ah oui patron, hein. C'est bien, bien cuit pour nous. Hein.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 7,98€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au dimanche 19 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Carglass.
Un problème de vitrage sur votre voiture? Vous pensez à Carglass directement? Bien sûr, on s'en occupe. Et avec nous, vous êtes sûr de conserver votre garantie constructeur. Chez Carglass, peu importe l'intervention vitrage ou la marque de votre voiture, votre garantie constructeur, vous la gardez. Et encore mieux, jusqu'au 31 mai, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un an d'abonnement à l'appli Coyote en version premium. Et ça, c'est Carglass qui le fait pour vous. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Eh oh, enlevez votre casque de vélo, vous êtes dans une piscine là.
Oui, mais en ce moment avec Esso, on peut gagner un vélo électrique par jour. Alors faut se tenir prêt.
Et comment on participe?
Ah bah allez sur ecomobilité-jeesso.fr.
Ok, merci.
Conditions sur ecomobilité-jeesso.fr du 1er mai au 31 août 2024. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Esso.
Carrefour.
Quand vous me dites, Carrefour baisse ses prix.
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés au rayon fromage et glace. Comme la feta grecque AOP Carrefour Extra qui passe de 2,89 à 2,45€, soit 15% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Barquette de 200 grammes, prix baissé à compter du 6 mai 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détaillez liste des produits concernés sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
11h06 de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi et le dimanche de 9h30 à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Chers auditeurs, vous pouvez également nous écouter en podcast. Sachez qu'aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle en direct du Mans à l'occasion du Grand Prix MotoGP. Départ à 14h, c'est la cinquième manche de la saison. Fabio Quartararo partira à la huitième position, Johan Zarco 15e. Pas beaucoup d'espoir pour nos Français d'accrocher un podium, mais forcément, nous sommes là pour suivre ce moment toujours très fort.
Qui sait ? Et s'il pleut, et qui sait ?
Allez, on espère. J'espère que tu auras raison, ouais, Marie. En tout cas, c'est un dimanche de mai que l'on aime ici avec le MotoGP. Et puis ce soir, il y aura de la Ligue 1 avec la 33e journée, notamment les adieux de Kylian Mbappé. Restez bien sur RMC avec Christophe Cessieux, Marie Martineau, Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski. Aujourd'hui, pardonne-moi Jérôme, c'est la dernière fois. Dans quelques instants, on parle de Raphaël Nadal qui ne veut plus penser à la blessure, ne plus penser à la rechute. Est-ce tout simplement impossible? Vous n'êtes pas d'accord, les GG. 11h30, le débat caché. Vous ne savez rien. Et pourtant vous allez devoir débattre. Et puis 11h45, Sébastien Poirier, le président de la Fédération Française de Moto, sera notre invité. La roue également dans cette émission, la roue RMC, la roue qui est de retour. Vous pouvez remporter jusqu'à 20 000 euros dès que vous entendez cette alerte. Vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant roue par SMS au 732-16, roue par SMS au 732-16. Soyez bien à l'écoute, ça va tomber une nouvelle fois dans cette émission. Pascal Rose a dit un jour, seuls les cailloux ignorent la peur.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Arrête de vivre dans la peur.
Il monte. Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette, il ne croit pas ses yeux. Rafa Nadal.
Il prend la décision aujourd'hui de vivre dans la joie.
Elle est dedans. Et c'est un ace. Oh le mec, il n'est pas allongé, il est à genoux.
À quoi bon une existence où on vit constamment dans la peur?
Rafa Nadal.
Pourquoi pas prendre la décision de vivre, de bien sentir, de rayonner.
La dixième, la décima,
absolument insolito.
C'est gagné. Parfait. C'est incroyable.
Petite extinction de voix.
Ahí la tienes. Rafa Nadal al suelo. Diez, Roland Garros.
C'est le plus grand terrien de tous les temps.
J'ai jamais vu ça, je crois.
Incroyable.
Quel immense champion, Rafael Nadal.
Heureusement qu'on a Eric Salio sur RMC, on va le retrouver dans quelques instants. À deux semaines de Roland-Garros, Rafael Nadal veut désormais prendre des risques, pousser la machine à fond. Le champion espagnol, éliminé sèchement hier au deuxième tour du tournoi de Rome, aimerait se débarrasser de cette peur de la rechute, lui qui tente de retrouver son meilleur niveau depuis 2 ans, quitte à mettre son comeback en péril. Si ça casse, ça casse. La musique qui fout les jetons est cette question. Ne plus avoir peur de la rechute, est-ce impossible? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Impossible.
Marie Martineau?
Dans son cas, je pense que c'est impossible.
Sarah Pitkowski?
J'ai pas compris.
Voilà, on était sûr. Les questions négatives, tu n'y arrives pas.
C'est impossible qu'il ait pas peur.
Oui.
Et donc je réponds quoi?
Ben oui ou non.
Oui, tu savais dire oui.
Oui, alors.
Elle est dans notre team. Je suis perdue.
À chaque fois, tu me fais le coup. Hein. Je vais arrêter les questions négatives avec toi.
Je l'ai lu hier. Je vais la relire 10 fois.
J'adore ça.
Non, c'est impossible qu'il ait pas peur. Voilà.
C'est clair. Jérôme Pinault.
Non. Moi, je pense que ça peut arriver.
Ça peut arriver. Il peut se débarrasser de ça. Parfait.
Exactement.
Et tu vas nous dire pourquoi dans quelques instants.
Quand c'est Nadal, tout est possible.
Avant de débattre, on va retrouver donc notre spécialiste tennis qui n'a pas d'extinction de voix aujourd'hui. Eric Salio. Salut Eric.
Encore. Salut les grandes gueules sartoises.
Hello.
Alors, où en est exactement Raphaël Nadal après ce tournoi de Rome et juste avant Roland-Garros?
Écoute, après un tournoi de Madrid encourageant, Raphaël Nadal souhaitait confirmer ses progrès notables à Rome, un endroit magique où il a triomphé 10 fois. Mais après un premier tour laborieux face au Belge Zizou Bergs, il a très vite cerné ce qui lui manquait encore.
I have Roland Garros in 2 weeks and a half. Arrive a moment that I need to prove myself if I am able to push my body the limit that I need to.
J'ai Roland-Garros dans 2 semaines et demie. C'est le moment de me prouver que je suis capable de pousser mon corps jusqu'à la limite nécessaire pour me sentir prêt pour ce qui arrive. Je dois perdre cette peur, je dois prendre ce risque. C'est le moment pour ça. Si quelque chose se passe de mal, on va l'accepter. C'est le moment de pousser et je me sens plus prêt pour ça que d'habitude.
Malheureusement, hier, le plan ne s'est pas déroulé comme prévu face à Hubert Hurkacz. Malgré vraiment une belle première demi-heure, il a piqué du nez pour encaisser un implacable et inhabituel 6-1-6-3 en conférence de presse. La question sur son éventuelle participation à Roland-Garros, évidemment, elle est très vite venue sur la table.
You can see today on the court how difficult it is.
Vous pouvez voir aujourd'hui sur le terrain à quel point c'est difficile, effectivement. Maintenant, il y a 2 voies possibles. L'une d'elles serait probablement de dire « Ok, je ne suis pas prêt, je ne joue pas assez bien ». C'est alors le moment de prendre la décision de ne pas jouer à Roland-Garros. Une autre est d'accepter comment je suis aujourd'hui et de travailler de la bonne manière pour essayer d'être mieux dans 2 semaines. La décision, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas claire dans mon esprit aujourd'hui. Mais si je dois dire quel est mon sentiment, si mon esprit penche plus d'un côté que de l'autre, je dirais être à Roland-Garros et faire de mon mieux.
Vous l'entendez, il apparaît résigné, il sait qu'il n'a pas un 15e Roland dans les jambes, mais la marque d'amour qu'il a reçue de la part d'une marée humaine de tifosi lorsqu'il a traversé la passerelle menant du central à la zone des joueurs va sûrement influencer sa décision. Il mérite de fouler une dernière fois le tapis ocre du central Philippe Châtrier où il a écrit l'une des plus belles légendes du sport mondial.
Merci Eric Salio. Il y a beaucoup de choses à dire sur Raphaël Nadal. Ouais. Vous l'avez entendu en longueur. Eric, tu peux rester avec nous sur ce débat. Nadal ne veut plus avoir peur de la rechute. Est-ce impossible? Évidemment, nous parlerons aussi de ce tournoi de Roland-Garros et de ce qu'il vient de déclarer hier. Christophe Cessieux.
Oui, parce que là, je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'il est impossible pour Rafa d'avoir peur d'être ridicule à Roland-Garros? J'ai l'impression que c'est surtout ça, sa peur principale aujourd'hui, quand tu l'entends dans ses déclats qu'il a fait à Rome. Hier,
il comprend que le pari semble difficile.
Il comprend
difficile.
Qu'il ne pourra pas gagner Roland-Garros. Il comprend qu'a priori, il peut aller sur le central pour jouer un match ou deux. Mais
est-ce qu'il est prêt à subir ça?
Est-ce qu'il est prêt à subir une humiliation sur la terre qu'il a sacrée roi pendant 14 ans? C'est, j'ai l'impression que c'est ça sa principale difficulté aujourd'hui. La peur de la blessure, évidemment, qu'elle est présente parce que quand tu...
Non, mais pour lui, c'est la condition sine qua non pour gagner. C'est-à-dire qu'il dit, il le dit en conférence de presse, il faut que je n'ai plus peur, il faut que je me débarrasse de ça.
Ça, c'est ce qu'il se raconte, hein, je sais. C'est lui qui se raconte ça. Hein. En fait, on a eu souvent ce débat, hein, de savoir quand est-ce qu'il faut partir, quand est-ce qu'il faut arrêter. Et Nadal, je pense qu'il a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin et que là, il se retrouve face à son choix d'avoir voulu encore faire une saison. Et c'est certainement la saison de trop. Et c'est, je pense que ça doit être terrible pour lui. Mais pour répondre à ta question, est-ce que c'est impossible de ne pas avoir peur? Tu bosses en prep mental, tous les athlètes le font, mais dans une construction depuis le début de ta carrière à justement ne pas avoir ce genre de pensée. Qui sont des pensées parasites. Mais Nadal, il n'a que gagné. Il n'a fait que ça. Le plus grand terrien de tous les temps, disait Eric dans un de ses commentaires. Donc, il n'a connu que la réussite, le sommet. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait jamais de peur.
Il y a eu quand même 34 blessures en 22 ans, quand même. Donc,
ça
peut faire un peu douter, quand même, Marie.
Je ne crois pas que ça l'ait fait douter. En tout cas, ça n'a pas vraiment impacté
les dernières années, un peu, quand même. Hein, les dernières années.
Mais là, réussir à traiter ça mentalement. Et s'absoudre de cette trouille-là de ne pas vivre ce qu'il aurait aimé vivre comme un dernier Roland-Garros, un dernier adieu dans les meilleures conditions, ça me paraît juste impossible, même si pour le coup j'accompagne des athlètes en leur disant que tout est possible mentalement, et c'est bien sûr qu'il faut y croire, mais là on est dans une configuration avec Nadal très 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 particulière.
Jérôme Pinon.
Moi, j'ai répondu oui à cette question parce que je pense que, justement, la clé de son plaisir ultime sur le court, parce qu'il n'y a que ça qui compte pour lui, c'est d'aller à Roland, l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure avec Vingegaard, il sait qu'il va y aller pour faire de la figuration, mais il a envie de kiffer une dernière fois, avec le public notamment. La clé, c'est peut-être aussi, Marie, je sais pas ce que t'en penses, c'est de se dire, j'y vais à bloc et tant pis si ça pète. De toute façon, si ça pète, c'est fini.
Il est déjà pété, en fait. C'est là où il se raconte une histoire, c'est ce que je te disais. Il est déjà pété.
Et après, il y a où se situe le seuil de douleur. Jusqu'où suis-je capable d'accepter d'avoir mal pour jouer? Est-ce que le plaisir est supérieur à la douleur que je ressens? Et s'il arrive à passer outre ça, il peut encore se faire plaisir sur un court. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de Nadal? C'est juste faire plaisir aux gens de venir le voir une dernière fois. Lui, la légende, parce que lui, c'est le plus grand de tous les temps. Sur la terre à Roland, c'est aussi ça, redonner un peu. On sent que le mec, il a quand même envie d'y aller. Sur la fin de l'interview, il dit aujourd'hui, je pense plus du côté où je vais aller parce qu'il sait qu'il va.
Oui, mais il a du mal à se dire que c'est pour faire un tour ou deux tours.
Et moi, j'ai envie de dire, mais on s'en tape, mec, t'as gagné 14
fois. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez, justement?
Moi, je lui conseillerais d'y aller.
D'y aller ou alors d'arriver, justement, en disant les gars, je suis désolé, je suis pas au niveau.
Pas. Mais il
fera mieux
mais c'est
d'y aller.
Et
je viens me faire fêter par le public de Roland.
C'est exactement ce qu'il a dit. Il dit je ne suis pas à 100%. Et il le déclare encore hier. J'ai des petits soucis.
Mais est-ce que tu as envie de le voir perdre? C'est comme pas ça, 6-0, 6-2, 6-3, dans un premier tour.
Non, j'ai pas envie. Mais on va juste revenir. Quand il décide, donc, on est en janvier 2024, il décide de revenir. Il a eu cette blessure au psoas où il s'est fait opérer. Là, on parle d'un tendon. Il revient en janvier, il se répète sur le même tendon.
Ah, je crois que c'était pas tout à fait au même endroit.
En fait, c'est musculaire. Il y a le tendon et le muscle derrière est déchiré.
Il est cassé de partout. Très bien.
Mais en fait, il fait ce travail et il revient. Il a repoussé un peu sa reprise. Il revient et je pense que le premier match, il sait qu'il est dans les sensations, qu'il cherche des sensations. Et puis, il y a ce bon tournoi à Madrid où il gagne 3 matchs. Mais le problème, c'est que le troisième match, il gagne en 3-7 et il doit rejouer 24 heures après. Et là,
c'est pas possible.
Il ne peut plus. Mmh. Il ne peut pas physiquement. Et ce qui se passe
hier, début de match, il s'accroche.
27 minutes. Ouais, c'est 3 ça. Jeux, 27 minutes après. Il n'y a plus d'essence dans le moteur. Mmh. Et en fait, c'est là que je pense qu'il est en train de prendre conscience. Nadal est un joueur en souffrance, c'est-à-dire qu'il joue dans l'intensité, dans le mal. Je pense qu'il n'y a pas sur la planète quelqu'un qui sait plus se faire mal que lui quand il joue au tennis. Et là, je pense qu'il essaye, son cerveau doit essayer de demander à son corps
de le suivre.
De le suivre et que ça ne suit pas. Ouais, il est loin derrière la ligne. Il frappe, les balles ne font plus mal, il n'arrive plus à avancer. Et donc, en fait, il y a un décalage entre sa tête qui voudrait.
Bah oui,
donner un ordre à son corps, mais son corps ne réagit plus. Et je pense que les propos qu'il dit hier, malheureusement, il est en train de se résigner, de dire si je vais à Roland-Garros, ça dépend du tirage. Il est capable de gagner un match, mais il ne peut pas enchaîner deux matchs en 5-7. C'est pas possible.
Pour en revenir à ce que
dit Christophe, donc il y a une forme de résignation qui est en train de naître.
Sur la perf, oui. En revanche, moi qui ne suis pas un grand passionné de tennis, mais qui suis notamment les stars, je kifferais, pour le coup, le voir aller même perdre sur un cours central, un beau cours plein. Et le voir partir comme ça, plutôt que de faire une conférence de presse.
Mais non, pas une conférence de presse, mais de le voir rentrer sur le central avec un central plein,
qu'il applaudit.
Il prend les deux.
Oui, mais on a quand même envie de le voir jouer.
Ce sera le cas.
Non, j'ai pas envie de le voir perdre, lamentablement.
Non, mais de manière, c'est gros.
T'es pas un amoureux des champions.
Tu sais quoi?
Justement, je suis trop amoureux des champions pour les voir dans leur déchirure.
Il a son anniversaire chaque année à Roland-Garros.
C'était terrible, ton dernier Tour de France, par exemple. Tu vois, j'ai souffert.
Mais tu vois, j'y ai repensé. C'est vrai qu'au pied du dernier col, j'avais envie d'aller plus vite que les autres, si j'y arrivais pas.
Et ton corps ne répondait pas à ta tête.
Il n'a jamais répondu à ma tête.
Éric Salio, qui est toujours avec nous. Éric, quand on entend sa dernière déclaration après cette défaite hier au deuxième tour du tournoi de Rome, il a envie d'y aller, mais on sent que c'est difficile. Et Sarah le disait, peut-être qu'il est en train de prendre conscience qu'il va pas réussir le challenge.
Non, mais ça, c'est. Je pense que maintenant, on est tous préparés. Il l'a pas dans les jambes. Maintenant, dans votre débat, il y a une question importante. Peut-il tout donner? Il y a une donnée qui est très importante, c'est qu'il y a les jeux derrière. Si vraiment il va au bout de son processus et qu'il lâche tout et qu'il se casse pour de bon, il se prive des jeux. Il se prive des jeux. Et hier, j'ai écouté la conférence de presse, il y a une question qui est revenue, qui revient sans cesse, c'est le fantasme du double Alcaraz-Nadal. Donc tu vois, il a ça dans un coin de sa tête. Il dit, ouais, mais si je me casse et si je me
ça pète, ferait une beaucoup plus belle sortie, peut-être. Hein.
J'annule mes chances pour les Jeux à Paris, parce qu'il y a une vraie chance de médaille, pourquoi pas en double. Donc il a le cul entre deux chaises, quoi, voilà, une fois de plus.
Cette donnée-là, nous, enfin, moi, je l'avais pas. Non, c'est vrai qu'elle est importante.
C'est ça la contradiction, et c'est aussi pour ça qu'on vous proposait ce débat ce matin, parce que j'ai vu après son premier tour qu'il avait déclaré, bah, si ça casse, ça casse. Mais il n'est pas que sur Roland.
Ah, je reviens sur ce que j'ai dit. Non, mais c'est clair que j'avais pas le côté double, notamment avec Alcaraz éventuellement. Et pour les Jeux, évidemment, là, tu peux plus y aller.
Est-ce qu'il peut se permettre de casser? Donc, est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est possible pour lui de se dire, bah non, j'ai pas peur de la
réussite. De toute façon, il va bien falloir qu'il joue avant d'aller faire les Jeux.
Oui, mais alors, en double, c'est quand même moins sollicitant, Sarah.
Mais bien sûr.
En double, à deux, c'est en 2-7 gagnants, c'est ça le tournoi?
Oui, puis il y a le côté passation de flambeau.
Ouais, l'image très symbolique avec Alcaraz, il rêve que d'une chose.
Oui, enfin, l'image, il s'en fiche, c'est d'aller chercher une médaille.
Ah, tu crois pas que l'image quand même de faire un beau départ, c'est non, quand même surtout que les autres ont bien réussi. Enfin, en tout cas,
c'est d'aller chercher une médaille. S'il le fait avec Alcaraz en double, c'est parce que en fait, comme tu dois jouer avec un, enfin, c'est pas la même chose du circuit de double à l'année où tu joues finalement avec le partenaire avec lequel tu es habitué. Là, tu dois jouer avec un compatriote. Mais des fois, l'entente, elle se fait pas. Donc, il y a plus de chances effectivement d'avoir une ouverture s'il est en état physique de jouer avec Alcaraz et d'aller chercher une médaille.
En sachant ça, il ne peut pas dire, comme il a dit en conférence de presse, maintenant c'est le temps de me libérer, je dois plus penser à la rechute.
Mais là, il est en guerre avec son corps.
Je pense qu'il est en guerre avec
son corps
là.
Est censé être son meilleur pote parce qu'il est dedans et c'est son corps qui lui permet de développer son tennis et ce qu'il aime faire plus que tout au monde. Donc c'est un paradoxe qui est terrible. Oh, il doit vraiment pas être bien. Et
sans compter
qu'il
doit vivre avec la douleur.
Et en plus avoir le mal qui est un enfer. Ça doit vraiment être terrible ce qu'il est en train de traverser.
JB est avec nous, 32-16. Salut JB.
Salut à tous, comment ça va? Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre tout le monde d'accord.
On t'écoute, JB, c'est Jean-Bernard.
J'étais intervenu l'année dernière à la finale, dans les Grandes Gueules d'ailleurs, juste avant la finale de Roland. Et en fait, moi, mon avis, c'est que je suis plus du côté de Marie. Depuis longtemps, je pense que... Salut Sarah, je sais que Sarah est là et Sarah, on se connaît. Donc, je suis plus d'avis à vous dire que... Ouais, on se connaît parce que je suis dans le tennis. Je suis plus dans le tennis depuis un an parce que j'ai fait une opération de la hanche. Bref. Et donc,
Jean-Bernard, ça se resitue normalement.
Bien sûr.
On n'en a pas 50 des amis qui s'appellent Jean-Bernard. Vas-y, JB.
Donc, à l'époque, je me disais, moi, que Rafa, il fallait qu'il tire sa révérence depuis un bon moment. Et comme vous dites tous, il a du mal à se dire que je vais arrêter comme ça. Donc, Sampras l'a fait en 2002, après sa victoire à l'US Open. C'était très dur pour Sampras de revenir. Roger, il a surpris tout le monde, mais il s'est dit, son corps ne veut plus. Ben, j'arrête. Je vais pas pouvoir aller plus loin. Et en fait, Rafa, c'est son problème, c'est que c'est tellement un mec qui gagne dans sa tête que le fait d'arriver sur le court et se dire, je peux pas partir comme ça. Donc là, il pousse ses échéances. Et vous en avez parlé, les Jeux dans sa tête, il a tout plein de projets en même temps, des projets qui sont très éloignés. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, Rafa? T'arrêtes, tu continues. J'en suis sûr qu'avec son équipe, ça doit être un casse-tête chinois. Et en plus, il doit avoir tout le monde qui arrête aussi, des gens un peu de sa génération. Del Potro a arrêté, Dominic Thiem a arrêté, Schwarzman arrête, Raonic il va pas tarder, Murray je sais pas ce qu'il fait. Donc voilà, à un moment, on se dit qu'il doit se dire lui aussi dans sa tête, je continue, je vais jusqu'au bout. Et je pense que vous avez tous raison, là où vous avez tous raison, les jeux, il est en train de se dire derrière il y a les jeux, qu'est-ce que je fais, comme dit Sarah, ouais, est-ce que je vais aller jusqu'au jeu, si je me pète. C'est dead, je ne peux pas pouvoir aller jusqu'au jeu. Et c'est vrai que le challenge, il est compliqué. Voir Rafa quitter Roland comme ça, sur le central, moi j'étais fan de Roger, hein. J'ai vu toutes les finales, c'était dû en bas, j'ai vu toutes les finales contre Roger, où Rafa est régné sur Roland. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir comme ça, tête basse,
Oui, mais peut-être, mais la fête sera quand même monumentale. Et quand même, on a quand même envie de voir cette image et envie de voir ce grand champion.
Il n'était pas là l'année dernière à Roland-Garros. On a besoin de le voir.
Oui.
Je pense que lui a besoin de faire ses adieux, mais le public français a aussi besoin et l'organisation a besoin aussi de lui
pour
faire.
Tourner la page.
Exactement, pour lui faire des adieux. Et en ça, j'ai envie de dire que le résultat sera anecdotique.
C'est pas pareil, un adieu, comme le dit Christophe, en civil, venir sur le central à 5 minutes avant la finale et dire au revoir que. En tant que joueur, c'est pas du tout la même chose. Et pour compléter ce que dit JB, il faut pas oublier que c'est un sportif de très 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 haut niveau.
Et il pense pas comme tout le monde.
Et il l'est pas comme tout le monde. Oui. Voilà. Donc c'est un garçon qui.
Là, il le paye cher hein, d'avoir pas été comme tout le monde.
Oui, mais il a Marie pour le coup, tu sais très bien, il a pas
il
décidé
a, non, mais
encore. Oui, mais il a pas eu ce fameux truc au moment où tu te dis ouais stop c'est fini.
Bah ouais.
Mais
bah,
ça viendra. Mais il l'a pas eu encore et donc là il lutte avec des choses. Contre lesquels il sait très bien qu'il ne peut pas lutter. Il sait très bien aussi, dans un autre côté, qu'il n'aura plus jamais l'opportunité d'être au niveau, d'avoir le top niveau qu'il a connu, mais il faut ce moment
oui, mais
où tu lâches.
Je crois toujours un peu.
C'est ce qui différencie toi avec nous, Christophe, c'est le sport de haut niveau.
Je crois encore que je peux prendre la place de Gilles.
Non, il est champion du monde d'entrecôte avec des pommes grilles.
Moi, je l'ai vu.
Je suis imbattable.
Ça veut dire qu'il n'est pas prêt d'être battu.
Allez, il est 11h25. Dans deux semaines, c'est Roland Garros et avec toute notre Dream Team, Sarah Pitkowski.
Les gaffes à pas te faire enlever par les
Marion Bartoli, Julien Beneteau, nous suivrons évidemment cette quinzaine. Merci Eric Salio d'avoir été avec nous. Eric Salio qui sera aux commentaires durant la quinzaine. Porte d'Auteuil, à bientôt sur RMC. À très vite. Et toutes les dernières informations sur le tennis, sur Rafael Nadal, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. 11h26, le débat caché arrive dans quelques instants. Vous ne savez rien, les GG. Moi, ça me plaît. Je dis pas que ça va vous plaire, mais moi ça me plaît. Je pense que vous allez être très bon là-dessus.
Tu dis ça, c'est que ça va
plaire. Ça nous inquiète déjà.
Voilà, je suis très inquiet.
Je dis pas que ça va vous plaire, mais moi ça me plaît. Ouh là là.
Je tâte le terrain. De toute façon, je fais ce que je veux. J'ai décidé du débat caché. À tout de suite.
Mais nous aussi, on peut décider de partir pendant le débat caché. Hein.
Bah décider, je vais bien débattre tout seul. Allez voir.
Traverse pas la route à gauche.
En plus, j'ai prévu une question avec de la négation dedans. Donc comme ça, Sarah pourra dire oui ou non à la fois. Elle sait pas, elle comprendra.
Elle répondra au péage d'Angers. Je vous appellerai.
À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport en direct du MotoGP de France.
Vibrez Moto, rejoignez la Fédération Française de Motocyclisme. Partagez des moments exceptionnels, vivez des sensations incomparables et offrez-vous un vent de liberté sur nos circuits.
Salut, c'est Benoît Boutron sur RMC. Est-ce que ça vous plairait d'assister à un moment d'histoire ? Venez au stade Charletti le 8 juin, RMC lance le record du monde de course. 350 km à courir en 24 heures par 144 coureurs. Assistez tout le week-end aux émissions d'RMC, rencontrez les 24 champions stars du running qui nous aident dans cette tentative. Beaucoup de surprises, animations et de nombreux cadeaux à gagner. Et si vous souhaitez être acteur du record du monde RMC, contactez-nous par mail à l'adresse record@rmc.fr.
Entrée gratuite pendant toute la durée de la course. Toutes les infos sont à retrouver dans le podcast RMC Running.
Donnez une autre dimension à votre passion pour la moto. Avec les motoclubs et les écoles de la Fédération Française de Motocyclisme. Des structures de qualité dédiées à l'enseignement de la moto en loisir ou en compétition. Quel que soit votre âge, apprenez les bases du pilotage. Progressez à votre rythme pour exprimer votre passion pour la moto en toute sécurité. Et faire le plein de sensations. Des solutions clés en main vous sont proposées partout en France. Vibrez Moto. Rejoignez la Fédération Française de Motocyclisme. La FFM. Au cœur de votre passion.
Peugeot. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique en ville et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
À tous ceux qui décident de ranger leur bibliothèque. À ceux qui se disent, tiens, et si je regardais ce docu sur la photosynthèse ? Ah non, mieux, je vais me faire un sudoku. Bref, à ceux qui veulent tout faire, sauf le ménage. Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon entretien en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 19 mai, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
Le Grand Prix MotoGP, c'est à partir de 14h, c'est à suivre en direct, en intégralité, avec aux commentaires Christophe Cessieux et Paul Lafitte. Soyez bien avec nous, c'est l'un des événements de la journée. Les grandes gueules du sport jusqu'à midi avec Christophe Cessieux, Marie Martineau, Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski. Dans 10 minutes, le président de la Fédération française de moto sera notre invité, Sébastien Poirier. Avec lui, on parlera notamment d'écologie, sport méca écologie. Est-ce que c'est compatible? Car vous allez voir, le Grand Prix du Mans tente des choses, des innovations, et tente évidemment d'accentuer son engouement autour de l'écologie. On vous en parlera dans une dizaine de minutes. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre, réagir sur l'émotion, à une actualité forte tout de même. Je ne sais pas si ça va vous plaire, je vous le disais il y a quelques instants.
Ouais, c'est encore du Mbappé ça.
Mais je pense que ça peut faire un bon débat. Le débat caché, le guet-apens du jour, c'est ça.
Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Ça va ?
Question suivante.
Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis.
Qu'est-ce que tu sous-entends ?
À savoir que vous alliez quitter le PSG.
Impossible.
Non, faites pas trop non plus, Kylian.
Il n'y a pas de tension, hein. Tranquille.
J'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club.
On appelle ça ne pas lâcher le morceau. Emmanuel Macron continue de mettre la pression sur le Real Madrid pour libérer Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous avez entendu cette petite séquence. C'était avec l'humoriste Paul de Saint-Sernin mercredi à Marseille lors de l'arrivée de la flamme olympique, où il dit qu'il met un maximum de pression à son soi-disant futur club. On le croyait sur le ton de la boutade, le sourire aux lèvres au moment de le dire. Que nini ! Deuxième couche hier, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, où Emmanuel Macron est encore interpellé sur le cas Mbappé au JO, alors qu'il répondait à des questions des internautes sur l'Europe. Écoutez.
Je n'ai pas de commentaire particulier, si ce n'est que je compte sur le Real Madrid pour libérer Kylian pour les Jeux Olympiques et qu'il puisse venir jouer avec l'équipe de France quelques semaines après avoir gagné la Coupe d'Europe avec le PSG et l'Euro de foot avec l'équipe de France.
Le ton est plus solennel.
Il y a un wagon de
retard. Il met la pression.
Envoyer les troupes sur Madrid, je pense.
Le président de la République est-il...
Il y a quand même une info, c'est que le président nous annonce que Kylian Mbappé a signé à Madrid.
Exactement.
C'est déjà la grosse info du jour.
Mais c'est un secret polichinelle.
Ah ben.
Le président de la République est-il dans son rôle? Oui ou non? Marie Martineau.
Je viens d'écrire sur mon papier, ne peut pas dire autre chose. Oui, il est dans son... est-ce qu'il est dans son rôle? Genre, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le rôle d'un président de la République d'ingérer dans les...
De mettre la pression sur le Real Madrid pour lâcher un joueur de l'équipe de France.
Oui, il est dans son rôle.
Oui, il est dans son rôle. Christophe Cessieux. Oui, il est dans son rôle. Jérôme Pinault.
Vous connaissez mon rapport avec la politique et le sport, donc non.
Donc non. Je comptais sur toi, sur ce débat. Sarah Pitkowski.
Je vais m'aligner avec Jérôme, non.
Vraiment, vous rentrez ensemble tout à l'heure du côté de Nantes. Hein, ça se sent. Hein. Ça se sent, personne ne veut s'embrouiller.
Si vous faites des enfants, vous m'en gardez un.
Sarah Pitkowski, pourquoi non?
Non, alors je vais peut-être m'aventurer sur un terrain, mais je trouve que déjà la politique de notre pays ne prend pas de hauteur. Qu'est-ce qu'elle vient avoir à faire dans un débat comme celui-là? On a bien d'autres choses où on attend notre président et notre gouvernement plutôt que nous.
Mais non, ça ne nous prend pas beaucoup de temps quand
même.
C'est quoi le rôle d'un président de la République sauf de faire rayonner l'image de son pays?
Les Jeux Olympiques, c'est de développer son pays. On va arrêter deux secondes.
C'est aussi faire rayonner l'image de son pays. Les Jeux Olympiques sont un élément capital aujourd'hui pour le moral des Français. Du sport français dans les Jeux Olympiques, je suis désolé.
On a essayé de faire semblant de mettre la pression. Il a rien à faire. Qu'il le fasse en off, il n'a pas besoin de le dire.
Pourquoi tu fais qu'une seule chose dans ta vie? Tu peux pas.
Non, mais on n'a pas à communiquer là-dessus. Non, mais on marche sur la tête. Un président de la République, il se passe quoi là? En Ukraine, en Russie, en Israël. Non, mais Ça l'empêche pas de faire son job. Mais en tout cas, moi, j'attends pas mon président là. S'il le fait une fois, mais ça fait quatre fois qu'on l'entend dire ça. On va où là?
Une fois, ça suffit.
C'est pas un gouvernement est un gouvernement.
Non, mais c'est pas quelqu'un qui s'ingère dans le sport. Il a pas décidé de faire une conférence de presse pour expliquer ce qu'il allait faire.
Il est interrogé.
Il aurait dû faire appeler la ministre des Sports. Pérez aurait dit c'est qui?
Mais parce qu'il a déjà répondu à cette question, donc on sait que systématiquement, quand on va lui poser la question,
il va remettre une pièce dans le jeu de
balle. Pardonnez-moi, il va quand même beaucoup plus loin depuis cette semaine. Parce qu'avant, il nous disait je veux que Kylian fasse les Jeux Olympiques. Ça, c'était le point de vue du président.
Mais il peut le dire.
Maintenant, il dit je mets la pression au Real Madrid.
Moi, le truc qui me paraît invraisemblable, c'est que il appelle Florentino Pérez pour lui dire président, il faut que Kylian fasse. Mais Pérez a pourrait lui dire, mais de quoi tu te mêles?
Il peut pas. Il peut pas lui dire, il est le président
de la France. Il peut lui dire, écoutez, moi je gère un club, vous gérez votre pays, terminé, point final à la ligne. Et qu'il le dise, et qu'il le fasse en off. Mais qu'il répète sans arrêt, mec, c'est pas l'agent d'Mbappé, quoi. Non, les Jeux ont pas besoin d'Mbappé.
C'est l'agent.
Il y a de la
des Jeux Olympiques. C'est le premier agent des Jeux Olympiques.
Il y a assez de stars, et je pense qu'il y a des stars à mettre en avant sur beaucoup de sports pour les valeurs que, dans le discours qu'il a, il faut glorifier l'olympisme, toutes les valeurs qui vont avec. Et dans le même temps, il nous dit, j'ai appelé le président du club le plus riche du monde pour que le...
Et tu veux qu'il réponde quoi? Qu'il réponde l'inverse à la question?
Ça n'est pas une question des Jeux Olympiques.
Je ne demande même pas, parce que les affaires d'État...
Je souhaiterais qu'il soit là. Et on arrête le débat. Je souhaiterais effectivement que l'équipe de France...
Mais c'est l'occasion pour lui de se faire mousser, de montrer à quel point il a...
Ça n'est pas son rôle, Marie, d'appeler le président du club.
Non, c'est pas le rôle.
Il y a quelques semaines, on apprenait que le Real Madrid n'était pas d'accord pour libérer ses joueurs.
Point final.
Étrangers. C'est important. Étrangers pour les Jeux Olympiques de Paris. C'est-à-dire que les Espagnols, on est bien d'accord pour les libérer. Les joueurs étrangers, non. Donc la France, évidemment, pays étranger pour les Espagnols, eh bien, ils ne voulaient pas libérer les Français Kamavinga, Tchouaméni, voire Kylian Mbappé.
C'est très sympa pour eux, d'ailleurs.
Je trouve qu'il prend quand même un gros risque, le président Macron. C'est que si Florentino Pérez lui dit « mêlez-vous de vos oignons », il va perdre un peu la gueule, quand même. Tu veux dire, ça veut dire que l'influence d'un président de la République qui demande...
L'influence d'un président de la République un club de foot. Non, mais c'est président de la République, chef des armées. Non mais
alors qu'il envoie les troupes sur Madrid.
Non mais il y a un moment on marche sur la tête, quoi.
Moi je pense qu'il y a aussi
la ministre des Sports, que la ministre des Sports.
Non mais elle chante Nakamura, c'est pas possible.
Oui, non mais que la ministre des Sports, c'est son rôle. Arrête un peu. Que la ministre des Sports essaye de faire du lobbying. Je l'entends, mais chacun a sa place.
Ah mais si la ministre des Sports appelle Florentino Pérez, je ne suis pas sûr qu'il sache qui c'est. Hein.
Alors, sachez qu'hier, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a été interrogé sur cette question. Sur la question du président de la République qui met la pression sur le Real Madrid. Et voici ce qu'il dit. Je ne peux rien dire contre le président français. Et sur Mbappé, il répond, c'est une question que je ne prends pas en compte pour le moment. Voilà, une botte en touche, évidemment, Carlo Ancelotti, parce que c'est difficile, cette question. Mais au-delà de ça, je le disais, le Real Madrid ne veut pas libérer ses joueurs étrangers. Quand on est tout de même un président de la République, que l'on représente les Jeux Olympiques, que l'on a envie d'avoir les stars, est-ce qu'un petit coup de pouce de destin, est-ce que vous, ce qui vous gêne, c'est surtout qu'ils le disent, mais ils pourraient le faire?
Non, moi, même le faire, moi, ça me gêne.
Mais replacer les choses là, sur l'échiquier mondial, de la politique mondiale, est-ce que vous ne croyez pas que dans d'autres pays, les présidents ont largement plus
et, de quel pays exactement?
Par exemple, je parle du dopage organisé, de dopage d'État en Russie, je parle d'ingérence.
Du dictateur biélorusse qui dit à ses athlètes.
Cassez-leur la gueule.
Mais je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, très bien. Je dis juste que c'est soft, comme c'est du soft power. Enfin, c'est gentil. Oui.
Moi je trouve que une fois de plus qu'il reste à leur place. Il est là pour promouvoir les jeux, mais pas sélectionner les athlètes. C'est pas son rôle. Et en plus, dans cette parole-là, il est, moi je trouve, ultra maladroit avec les gens qui sont potentiellement capables d'y aller aussi.
C'est pas sélectionner.
Et Tchouaméni et Kamavinga en sortent alors.
Eux, ils ne vont pas se faire. Filer un coup de pouce au sélectionneur national.
Et le mec qui va jouer en pointe dans l'équipe de France olympique, lui, on n'appelle pas pour savoir s'il peut y aller.
Et puis, il y a autre chose.
Les jeux n'ont pas besoin d'Mbappé.
Il y a autre chose. Est-ce qu'il est vrai? On sait qu'il est assez proche de Didier Deschamps. Est-ce que Didier Deschamps est raccord avec ça? Parce que peut-être que l'équipe de France n'a pas forcément envie que les joueurs qui vont discuter l'Euro fassent les Jeux.
Mais il a déjà fait la fin de saison de Champions League en dedans, il ne va pas faire l'Euro en dedans pour être bien au jeu. À un moment donné, il va non, mais si, qu'il en face,
ce serait bien s'il soit en dedans quand il arrive au Real. Là, ce serait mieux.
Bah, c'est ce que souhaite Florentino Pérez.
Personne ne souhaite ça, évidemment. Bon, voilà pour ce débat caché.
Il en plaisait. Tout cas, l'info, c'est quand même que.
C'est intéressant.
Mbappé a signé à Madrid, ça y est, on sait. Macron nous l'a dit.
Que le président voilà, Macron
il a annoncé
le
transfert officiel.
Ok, allez, il est 11h38. On revient dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de moto, sera notre invité pour parler évidemment de ce Grand Prix du Mans, pour parler également d'écologie. C'est l'événement aujourd'hui sur RMC, le Grand Prix MotoGP, à partir de 14h, à suivre en direct en intégralité sur RMC. A tout de suite.
J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité.
RMC, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Vibrez Moto, rejoignez la Fédération Française de Motocyclisme. Partagez des moments exceptionnels, vivez des sensations incomparables et offrez-vous un vent de liberté sur nos circuits.
Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais avancés. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, mais merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC.
12h15, cyclisme, la 9e étape du Tour d'Italie. 14h, MotoGP, départ du Grand Prix de France. Et à 20h45, football, 7 matchs de l'avant-dernière journée de Ligue 1 en simultané.
RMC, numéro 1 sur le sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
11h41, de retour dans les grandes gueules du sport. Donc en direct du Mans, la grosse voix vient de le dire, pour le Grand Prix MotoGP, c'est à partir de 14h et c'est à suivre en direct en intégralité sur RMC. Nous suivrons forcément les performances de nos deux Français, Fabio Quartararo et Johan Zarco. Toujours avec Christophe Cessieux, avec Marie Martineau, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault et notre invité, Sébastien Poirier, président de la Fédération Française de Moto. Bonjour Sébastien.
Bonjour à vous.
Nous nous voyons une fois par an, toujours de bonne humeur. On est toujours très heureux d'être accueillis ici. Merci pour votre accueil. Vous comptez battre le record de la saison dernière déjà au niveau de l'affluence, c'est bien parti non ?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que le public est venu une journée plus tôt, puisqu'avec le pont, ils étaient là dès le jeudi matin, et ça, c'est une très belle surprise d'avoir autant de personnes dès jeudi matin. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on a sur 4 jours une activité publique extraordinaire. C'est sûrement encore une fois la plus belle affluence de la saison, en tout cas, et un gros travail des équipes de Claude Michi et de la CO.
Je voudrais parler de sport méca et d'écologie dans quelques instants, parce que vous avez été à l'initiative d'une étude sur l'impact environnemental. On va en parler dans cette émission, mais juste avant, notre débat à 9h30, quand on a débuté cette émission, c'était de se dire, est-ce que le soufflet est retombé autour du MotoGP parce que nos Français ont du mal à briller depuis quelques années. Alors, il y a eu ce titre de champion du monde de Fabio Quartararo, évidemment, mais c'est vrai que cette saison, même la saison d'avant, hormis la victoire de Johann Zarco, on sentait un engouement médiatique moindre. Est-ce que vous le constatez aussi ? Quelle serait votre réponse ? Est-ce que le soufflet est un peu retombé ?
Non, je crois pas du tout. En tout cas, la preuve aujourd'hui par l'image. Vous avez vu le nombre de spectateurs. Toutes nos compétitions sont aujourd'hui et font de plein en termes de spectateurs. La fédération n'a jamais eu autant de licenciés. Ce qui est certain, c'est que 2021, c'est une chance pour nous d'avoir un champion du monde, le premier en catégorie reine. On a deux pilotes d'exception. Moi, je crois que les performances de Fabio sur la moto Yamaha, et bien sur tous les Grands Prix, c'est le premier pilote Yamaha. Et Zarco est le premier pilote Honda. Avec des performances qui aujourd'hui progressent, on l'a vu encore ce week-end. Donc ils font le choix de rester pour Fabio dans une équipe qui est en reconstruction par rapport à la concurrence des Italiennes. C'est un vrai choix. C'est pas le choix de la facilité. Je pense que Fabio est un pilote d'exception, on le voit tous les week-ends. Et quant à Johan,
Mais il n'est pas en train de gâcher sa carrière ?
Il a 25 ans, notre ami.
Ah, oui, mais ça va très vite, les années, président.
Les années passent, en effet, très rapidement, je suis d'accord. Mais il n'a que 25 ans. C'est un pilote qui est exceptionnel. Il l'a toujours été. Il a conservé son talent. Le problème des sports méca, c'est qu'en effet, on peut se retrouver dans des écarts technologiques qui font que pendant un an, deux ans, trois ans, eh bien, on perd un petit peu de temps. Mais Fabio, en termes de performance, il est totalement extraordinaire. Et Johan travaille énormément pour revenir au niveau avec sa moto.
Comprenez ma question. Est-ce que pour la fédération française de moto, on peut avoir deux pilotes? Alors c'est vrai que c'était déjà inédit ce qu'a fait Fabio Quartararo en 2021, mais est-ce qu'on peut se permettre d'avoir deux pilotes qui marchent moins bien, sachant qu'il y a eu un engouement extraordinaire, on peut pas se le cacher, on était même ici, c'est-à-dire que là il y a les spécialistes qui viennent voir le Grand Prix moto, mais le grand public s'était véritablement pris au jeu de cette MotoGP.
Vous savez, vous parlez tout à l'heure des JO, l'héritage est le cœur des JO, c'est le plus important pour moi en tant que fédération sportive. On a eu un héritage Fabio. L'héritage Fabio, c'est la contribution de tous ces jeunes qui ont débuté la compétition il y a 2-3 ans, qui sont en pleine marge de progression, qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qui sont en Espagne, en European Talent Cup, donc championnat européen. Et on a 10 pilotes en European Talent Cup. On n'a jamais eu autant de pilotes sur ce niveau intermédiaire, mais qui est fondamental pour la progression.
Il y a eu une bascule donc avec Fabio Quartararo et sa victoire.
On a pu poser en 2021 un projet qui était le projet Génération Vitesse. C'est vrai qu'on avait un trou générationnel et que l'on vit aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de pilotes en Moto 2, en Moto 3. Mais grâce à cet effet Quartararo, on a la génération qui arrive. Et moi, je suis persuadé que dans 2 ans au maximum, on aura des pilotes français qui découleront, qui proviendront de cet effet boost. En tout cas, un sport, il est porté par ses champions, oui, ça c'est certain.
C'est capital pour vous, pour une fédération, d'avoir des têtes d'affiche comme le sont Zarco et Quartararo. Aujourd'hui, l'engouement est toujours là, mais médiatiquement, vous n'allez pas me dire que c'est la même chose qu'il y a 2 ans quand même. Regardez, par exemple, j'en parlais tout à l'heure au journal L'Équipe, il fait 2 petites pages en fin de journal, alors qu'avant, ça faisait la une, quoi. Dans tous les journaux du dimanche, il n'y a rien sur le Grand Prix de France Moto aujourd'hui, mis à part les journaux locaux. Mais moi, je trouve ça quand même, c'est un signe que...
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a un autre sujet. C'est le sujet de la reconnaissance des sports mécaniques. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, dans la grande presse nationale, on ne parle pas de, sans doute, l'événement le plus populaire du week-end, avec une veillée très perdante.
Président, le politiquement correct.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on est très contradictoire en France. Exactement. On est un pays de constructeurs. On a des sports mécaniques exceptionnels, on a les plus grandes courses au monde, et pourtant,
on
tape avec la règle sur les doigts en disant.
Mais vous avez totalement raison, toute la schizophrénie qui est attachée à votre sport de façon générale à beaucoup d'activités humaines, on le voit sur les JO, où on les accueille, mais en même temps on les dénigre, c'est exactement la même chose. Donc moi je trouve que pour la France, on a la chance d'avoir des sports mécaniques qui brillent, qui rayonnent. Michelin, partenaire titre du Grand Prix, Motul qui est partenaire également, enfin c'est toute une filière que l'on a en France économique et qui apporte énormément à notre pays. Un Fabio Quartararo, il est connu dans le monde entier et il porte, il rayonne et il donne une image très positive de notre pays comme Zarco. Donc oui, vous avez raison, moi je le regrette. Alors pour ceux qui sont de l'équipe, on a quand même eu toute une série de pages cette semaine, donc ils essaient de nous accompagner. Mais oui, ils sont dans certaines rédactions
de bien pensants.
On a une difficulté pour présenter le dossier moto parce qu'on l'associe à quelque chose de négatif, ce qui est une monstruosité.
Bah vous savez ce qu'il faut faire pour lancer le départ de ce Grand Prix à 14h, il faut inviter Jules. Et là, vous repartez sur une polémique et c'est parfait.
Ben pourquoi pas?
Voilà ce qu'il faut faire. En tout cas, laver plus blanc que blanc, c'est ce que aussi vous essayez de faire. Paul Lafitte, notre commentateur, est toujours avec nous dans les grandes gueules du sport. Paul, les sports mécaniques peuvent-ils vraiment être écologiques? C'est la question qu'on va se poser.
Oui, alors sur le papier, cela semble inconcevable en vue de la logistique qui touche aussi bien les paddocks de Formule 1, du MotoGP, du rallye ou encore de l'endurance. Mais le volet environnemental est depuis le mois de décembre dernier au cœur des préoccupations et de la Fédération française de motocyclisme, mais également de la Fédération française de sport automobile qui a lancé JC auprès du cabinet Ernst & Young une consultation aussi large que possible auprès des licenciés entre fin 2022 et début 2023. Et le principal enseignement de cette étude tente à prouver que les compétitions de sport mécanique ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan des rejets de gaz à effet de serre, 0,37 millions de tonnes d'équivalent en CO2 en 2022, alors que le total des transports tournait autour des 132 millions de tonnes, c'était en 2019. Vous l'avez compris, c'est un écart abyssal. Et puis un autre chiffre très explicite, la pratique sportive en elle-même comprenait le roulage des pilotes. Patriotes ne représente aujourd'hui que 7% de l'ensemble des rejets, un taux qui tombe à 4% pour la moto. Donc le principal levier est donc ailleurs, dans la gestion des déplacements jusqu'au lieu de compétition, qui représente la grande majorité aujourd'hui des rejets de gaz à effet de serre, 82%. Pour faire simple, il faudrait que les calendriers futurs, que ce soit en Formule 1 ou en MotoGP, optent pour un quadrillage très précis, une zone Europe avec pourquoi pas l'enchaînement des Grands Prix en France, en Espagne, en Italie, en Autriche, en Angleterre ou encore aux Pays-Bas, une zone américaine et sud-américaine, enfin une zone en Asie, pour certainement éviter ces allers-retours incessants. Et c'est peut-être à partir de là que les sports mécaniques deviendraient beaucoup plus écologiques. Et
puis, merci beaucoup, c'est très complet, oui Christophe.
Il y a un tout petit coup de gueule, aujourd'hui, Grand Prix de France Moto, il y a quand même une ligne TGV qui relie Paris et le reste du territoire au Mans, mais ces gens de la SNCF ont décidé de fermer la gare et de faire des travaux pendant ce week-end.
C'est une honte.
Nous les premiers avons été obligés de prendre notre voiture et non pas de venir en train. Je trouve ça complètement hallucinant.
Exactement.
Justement, votre principal objectif, c'est la gestion, gérer la gestion du déplacement de supporters, c'est ça, c'est ce à quoi vous devez vous attaquer.
En tout cas, avec le président Deschaux, ce qu'on a souhaité indiquer, démontrer, valoriser, c'est qu'on ne représentait rien. C'est-à-dire que l'utilisation d'un moteur thermique pour s'amuser, pour se faire plaisir, eh bien, ne représente rien ou quasiment rien.
C'est pour combattre ça, les idées reçues.
C'est pour combattre les idées reçues. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Comme tout événement sportif, comme tout événement qui accueille autant de spectateurs ou de téléspectateurs, parce que ça vaut aussi pour tous les médias, on doit travailler, on doit s'approprier ces thématiques de développement durable. C'est ce que l'on fait. Mais moi, ce que je dis, c'est que les sports mécaniques constituent une chance extraordinaire pour décarboner. Quand on voit que Michelin produit un pneu qui est à 50% à la base de produits recyclés, quand on voit que Total Energy travaille sur des carburants de synthèse, des biocarburants, quand on voit que le MotoGP en 2027 sera sur un énergie neutre propre, c'est une chance extraordinaire d'utiliser la compétition pour améliorer notre mobilité, pour la décarboner. Les sports mécaniques ont permis, le siècle dernier, d'améliorer la sécurité. Eh bien, c'était le temps de la sécurité. Il y a eu une politique publique sociétale qui a tendu à réduire les accidents de la route. Eh bien, on y a participé, on a travaillé. Faites-nous confiance, aidez-nous, aidons la filière française pour faire en sorte de décarboner. C'est une chance pour notre pays. Je le dis, c'est une chance pour notre pays. Donc ce qu'on a voulu démontrer avec Nicolas Deschaux, c'est un, on ne représente rien ou pas grand-chose, et que le pas grand-chose, on va s'en occuper. Mais deux, travaillons collectivement. Moi, je veux que les 1700 compétitions auto et moto, c'est deux tiers de l'impact carbone de la championnat d'Europe de foot qui s'est déroulé en France il y a quelques années. Donc on ne représente rien. Par contre, c'est un problème d'image. Donc à nous de travailler pour améliorer tout ça.
Marie Martineau.
Oui, alors tout est un problème d'image et ce qu'il faut quand même pas oublier de dire, c'est qu'on continue à faire l'apologie de la voiture personnelle, des déplacements en voiture personnelle, alors qu'on devrait vraiment mettre le paquet.
Je suis pas sûr qu'on fasse l'apologie de ça.
Ouais, j'ai pas les chiffres en tête, mais le nombre de millions d'euros investis dans les publicités de voitures personnelles, alors que on devrait juste poser la question de se développer de se déplacer.
L'économie enfin, qui veut ça.
Oui, bien sûr, mais on continue à se faire la guerre entre l'économie et l'écologie. Et je trouve ça déplorable. Et j'aime votre discours parce que j'ai l'impression qu'il vient quand même essayer de rompre le coup à des choses qu'on pourrait continuer à colporter alors qu'elles n'ont pas lieu d'être et qu'on peut travailler ensemble justement à faire en sorte que les événements comme celui d'aujourd'hui portent les bonnes consignes quoi, et à travers le monde, parce qu'on parle de la France et de notre prise de conscience à nous environnementale, écologique, mais on vit
on n'est pas les plus mauvais élèves
hein. Non, bien sûr, loin d'être les plus mauvais élèves.
Non, mais l'idée c'est de faire de l'écologie, du développement durable, du sport quelque chose de positif. À chaque fois que l'on interdit la pratique du deux roues motorisées pour des raisons dogmatiques, on conduit à une pratique sauvage. On n'a jamais vendu autant de motos, on n'a jamais fait autant de sport moto. Donc c'est un sport comme un autre qui porte des valeurs extraordinaires, parce que les pilotes qui sont ici sont des pilotes qui ont des vraies valeurs, des vrais sportifs. Et ça, il faut vraiment le porter, c'est-à-dire que arrêtons toujours de voir le négatif, voyons les valeurs qui sont associées à un sport, et la preuve à travers ces centaines de milliers de spectateurs qui suivent les MotoGP.
Mais ce qui gêne.
Rien ne gêne.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Enfin, rien ne gêne, en tout cas.
Non, mais bien sûr, mais enfin, ce qui gêne dans l'absolu, il faut gérer le déplacement de supporters. Donc, ça, le déplacement de supporters n'est pas très bon pour l'écologie.
Si ça, c'est pour tous les événements.
Mais si on s'intéresse. Mais c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vous demande à vous des efforts supplémentaires parce que vous êtes un sport mécanique, alors qu'il y a les Jeux Olympiques, alors qu'il y a les Coupes du Monde du foot, il y a les Coupes du Monde du rugby, ils ont les mêmes problématiques.
Il y a des matchs tous les week-ends et certains stades, on y parvient qu'en véhicule personnel.
Oui, mais moi, avec Nicolas, on a démontré que notre force était aussi la ruralité. C'est-à-dire que nos sports, ce sont des sports ruraux. On va, dans nos territoires, développer de l'activité économique à travers une compétition sportive. Donc évidemment, pour les transports en public, c'est plus compliqué. Ce que l'on dit, nous, c'est de dire, oui, le cœur, ce sont les déplacements. Les déplacements, on va les corriger, on va réduire leur impact parce que la voiture électrique arrive. Et pour le coup, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est certain qu'il n'y a pas d'émissions carbone. Donc naturellement, on va réduire les émissions carbone liées aux déplacements. Développer les transports en commun, et je vous rejoins, c'est complètement incroyable d'avoir sur un week-end en plus aussi chargé, eh bien, au Mans, fermer la
gare. Mais c'est pas comme si le Mans était la capitale mondiale du sport automobile.
Mais vous n'avez pas essayé d'avoir des informations de la SNCF, de les faire plier, de leur dire bah non, mais là on a le Grand Prix, j'ai 300 000 personnes qui arrivent.
L'État n'arrive pas à discuter avec la SNCF alors.
Non, mais comment ça s'est passé?
Nous on a découvert il y a 15 jours à travers des messages qu'on a reçus comme quoi la gare était fermée pendant 4 jours. Voilà ce qu'on a découvert. Donc, le coup était parti. Alors, la SNCF nous a expliqué qu'elle avait ses propres contraintes, notamment par rapport à des transports quotidiens, etc. Et qu'apparemment, c'était là où il y aurait le moins de gêne possible. Mais c'est sûr que par rapport à l'impact carbone de cette compétition, si on avait pu utiliser la gare et privilégier le green ticket, etc., on aurait eu un discours cohérent. Mais on est sur un problème totémique, c'est licence sport mécanique. Ça, je pense que c'est important. Donc, avec Nicolas Deschaux, on a vraiment voulu corriger un petit peu cet aspect-là et de dire comment, pour notre pays, on peut réussir ensemble à être meilleur. Mais nous, notre activité spécifique, on s'en occupe, on va la gérer et on a la chance d'avoir une filière économique
après,
pour cela.
Après, moi, je veux rebondir sur vos propos et j'adore ce discours et j'abonde complètement. On est sur un événement particulier, le Grand Prix Moto. Les 24 heures du Mans Moto, je pense que ce sont la même chose. Le passionné de moto, le motard,
oui,
il vient avec sa moto.
Mais par contre, tu
vas pas le mettre dans un train, même pas la moto.
Ils ont envie de se voir, de se croiser. Il y a la communauté. Ça crée autre chose de très positif. Alors, il faut évidemment faire des efforts dans un sens, mais ne nous privons pas de tout. Parce qu'on se rappelle aussi que s'il faut, on fait comme à l'époque où le virus est nous embêté. Il n'y a plus personne. Et là, il n'y a plus de sens à faire du sport. Il faut aussi qu'on soit raisonnable dans certains choix et dans certaines idées, de continuer à permettre ces week-ends. Ou peut-être que le mec, ça fait 5 ans qu'il a préparé son week-end pour venir ici, qu'il a mis de côté. Il va venir avec sa moto et sa nana. Il va revoir ses potes. Ils vont passer 3 jours dans un champ et c'est ça qu'il veut. Si demain tu l'empêches, tu l'ennuies avec des choses, il viendra. Il
ne
faut pas perdre l'essence même de ces événements-là.
On peut l'utiliser différemment parce que ces personnes-là, ces 300 000 personnes qui sont là, tu les as sous la main. Tu peux aussi faire passer des messages.
Bien sûr, les éduquer. Il faut qu'ils viennent
pour les aider. Exactement. De la pédagogie, puisque ici ils sont réunis autour d'une même passion. Il y a des messages qui peuvent passer plutôt que de payer des coups de millions pour des campagnes de télé où de toute manière on ne les regarde plus. Il faut aussi se dire que le rassemblement des gens, c'est aussi des moments où on peut faire passer des messages et éduquer à des comportements positifs.
Pour moi, les motards, ce ne sont pas des gens sales, bien au contraire.
Enfin,
je veux dire, le motard, il est totalement éco-responsable comme n'importe quel autre citoyen. Si aujourd'hui tous les franciliens roulaient en deux roues motorisées, on n'aurait plus de problème de bouchons. Et donc les études sont claires là-dessus. Donc on a un problème avec le deux roues motorisé. Donc on nous envoie tous sur du deux roues avec une pédale assistée. Mais
moi,
le deux roues motorisé c'est une solution.
Et sans moteur, mais pas pour autant que l'impact carbone. Et voilà.
Est-ce que vous bossez sur des compensations quand même? Parce que c'est aussi une façon de s'en sortir. Entre autres, ça peut être ça, oui, mais il y a plein d'autres façons de faire.
Mais nous, on a un travail sur les compétitions avec la gestion du public. Donc on a un label éco-épreuve, on privilégie, on accompagne les clubs pour faire en sorte justement de s'approprier cette thématique de la gestion des déchets, la gestion, etc., enfin de façon globale, le public. Sur la partie règlement technique, c'est à nous de travailler pour justement faire en sorte de réduire les émissions carbone à moyen terme. Donc on a ces deux outils-là, ces deux aspects-là, et évidemment qu'on s'inscrit dans ce travail responsable, mais surtout responsable, mais positif.
Positif,
c'est-à-dire que c'est ensemble qu'on va réussir, et nous, on n'est pas plus sales que les autres, c'est vraiment ce que je veux dire.
Mais en tout cas, on était très heureux de vous faire rencontrer avec Jérôme Pinault, qui lui aussi fait partie d'un sport avec un moteur dans le vélo.
Mais pas pour tout le monde, c'est ça le problème.
Oui, c'est ça.
L'équité,
quoi. T'en pas.
Sébastien Poirier, merci beaucoup d'avoir été avec nous, président de la Fédération Française de Moto. Et déjà, belle course, bel événement aujourd'hui, et puis à l'année prochaine.
Exactement.
Voilà,
avec des Français qui gagneront à nouveau.
Exactement. Hein, merci d'avoir été avec nous,
merci
d'être passé nous voir dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup à Christophe Cessieux, Marie Martineau,
plaisir.
Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski. On se retrouvera le week-end prochain à partir de 9h30. La roue, l'alerte. C'est le moment de jouer, chers auditeurs.
Ah, c'est pas la
vous
trompette.
Avez entendu
ah,
la.
Il
n'y
a pas de trompette là.
Si, il y a eu la trompette.
Ils ont
plus
trompette,
la roue. Hein. Voilà, elle est là. Vous avez 5 minutes pour envoyer roue par SMS au 732-16. Vous pouvez gagner jusqu'à 20 000 euros roue par SMS au 732-16. Restez bien avec nous. Dans quelques instants, les paris RMC autour de Benoît Boutron et à partir de 13h, Christophe Cessieux.
Ah, portez pas quand même.
Paul Lafitte. Ben, je dois rentrer sur Paris. J'ai une émission ce soir. Ben non, je peux pas. La gare est fermée. Avec Marion Bartoli. Bartoli Time à partir de 19h. À partir de 13h, Christophe Cessieux, Paul Lafitte, pour en direct du Mans, pour tout vous raconter autour de cette course et évidemment le départ du Grand Prix. C'est à partir de 14h et ce soir, la 33e journée de Ligue 1 avec tous les matchs à partir de 21h, notamment la DR de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Une après-midi, une journée de feu sur RMC. Restez bien avec nous. Nous, on se retrouve ce soir à 19h pour Bartoli Time avec Marion Bartoli. Tout de suite, les paris RMC. Salut.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC. Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info.
Découvrez My Match en exclusivité.